J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain.
En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Feuilleton du journal des débats, 4 novembre 1921. Les rêves du professeur Sigmund Freud. La psychoanalyse est un mot nouveau, substitué à l'analyse psychologique, pour exprimer un mode d'observation et de traitement des maladies nerveuses auquel le professeur Sigmund Freud, de Vienne, a attaché son nom et dont il a fait un système philosophique, le freudisme. Monsieur Freud est un élève de Charcot et de Bernheim. Présenté comme une nouveauté merveilleuse, le freudisme est sorti des écoles de la Salpêtrière et de Nancy. Mais le professeur viennois a su donner à la psychanalyse un retentissement, une vogue qui a dépassé l'enceinte des hôpitaux et exercé des ravages en littérature grâce au prosélytisme des disciples. La guerre n'en a pas ralenti la propagande. De 1915 à 1917, M. Freud a professé ses leçons à Vienne devant un auditoire de docteurs et de profanes des deux sexes. Leçons qui n'ont rien du calme et de la froideur d'une démonstration scientifique, qui ne demandent pas une aveugle adhésion, mais qui sont destinées à éveiller l'attention, à stimuler la curiosité, et se lisent comme un roman parfois bien scabreux ou comme un conte d'Hoffmann. C'est aux rêves que le psychoanalyste attribue une importance. Les racontés passent d'ordinaire pour le sujet de conversation le plus stupide, les bourgeois idiots d'Henri Monnier s'y complaisent. Cependant, quel pressentiment! Quelle valeur prophétique ne leur attribuait-on pas autrefois? Le rêve réalise les désirs refoulés pendant le jour par le moi, par la conscience qui joue le rôle de censeur. Notez ce mot, refoulé. Le refoulement est une des clés de la psychoanalyse. Comment pénétrer le sens de ces idées latentes entrevues dans le rêve, mais couvertes d'un masque par crainte de la censure, de ces forces directrices de la pensée que l'éducation, l'habitude maintiennent en nous, même pendant que nous dormons? Si de telles idées émergent par instant malgré l'état de veille, nous nous hâtons de les chasser, de les désavouer. Tels sont les désirs de vengeance, le mouvement de jalousie que nous cause le succès d'un ami, la satisfaction secrète de quelques revers infligés à un voisin, l'éventualité de la mort d'un proche envisagée sans trop de déplaisir, par-dessus tout, les inspirations de la libido. Notez encore ce mot, cette seconde clé de la psychoanalyse. Tolstoï, dans la sonate à Kreutzer, nous rappelle que les pires tragédies sont celles de la chambre à coucher. Entre tous les sentiments inavoués et inavouables, la libido, d'après Freud, joue le premier rôle. Le freudisme a rendu de grands services à l'observation psychologique. Il apporte des vues nouvelles sur l'évolution de l'enfant. Il dégénère toutefois en pansexualité, alors que d'après le docteur Déjerine, le quart environ des cas peuvent se rapporter à la libido refoulée. Quant aux résultats obtenus, le docteur Freud s'abstient de toute statistique. Il en est de la psychoanalyse comme des miracles de Lourdes, de la Christian Science, des traitements philosophiques. Elle a ses succès et ses revers. Les disciples de M. Freud l'ont compromis par certaines ordonnances qui ont causé du scandale et contre lesquelles il a vivement protesté. La vulgarisation de la psychoanalyse a été jugée dangereuse. Un séminaire d'enseignement suisse a jugé bon de l'interdire. Moins susceptibles, les auditrices profanes de M. Freud ont suivi ses leçons sans le concours de leur éventail. Des confrères soupçonnent M. Freud de s'être laissé lui-même suggestionner dans ses théories sur la libido par cette atmosphère voluptueuse qui faisait de Vienne avant la guerre une rivale de la Venise de l'Aretin et de Casanova. Jean Bourdeau.